Guerre et paix. Première partie, chapitre 4, scène 2. Revenu de l'armée, Nicolas Rostov fut reçu par sa famille en fils chéri, en héros. Par sa parenté, en jeune homme distingué et bien élevé. Par ses connaissances, comme un charmant lieutenant de hussards, danseur élégant et l'un des plus beaux partis de Moscou. Les Rostov comptaient tout Moscou au nombre de leurs habitués. Le comte, qui avait renouvelé à la banque l'engagement de ses terres, était complètement à flot cette année. Et Nicolas, devenu propriétaire d'un superbe trotteur, poussait le genre jusqu'à porter un pantalon comme personne n'en avait encore vu dans la ville, et des bottes à la mode, au point relevé, avec de petits éperons en argent. Il passait gaiement son temps, et éprouvait ce sentiment de bien-être retrouvé que l'on ressent si vivement lorsqu'on en a été longtemps privé. Grandi et devenu homme à ses propres yeux, le souvenir de son désespoir, quand il avait manqué son examen de catéchisme, de l'emprunt fait à Gavrilo Lisvostoïk, des baisers échangés en secret avec Sonia, tout cela ne lui semblait qu'un enfantillage qui se perdait bien loin derrière lui. Tandis que maintenant, il était un lieutenant de hussards, avec un dolman argenté, la croix de soldat de Saint-Georges sur la poitrine. Il avait un beau trotteur, qu'il entraînait pour les courses de société, en compagnie d'amateurs connus, âgés et respectables. Il avait lié connaissance avec une dame qui demeurait sous le boulevard et chez laquelle il passait ses soirées. Enfin, il dirigeait la mazurka au bal des Arkharov, parlait guerre avec le feld-maréchal Kamensky, dînait au club anglais et tutoyait un colonel de 40 ans, ami de Denisov. Comme il n'avait pas vu l'empereur depuis longtemps, la passion qu'il éprouvait autrefois pour lui s'était affaiblie. Mais il aimait à en parler et à laisser croire que son dévouement avait un motif inexplicable pour le commun des mortels, tout en partageant, au fond de son cœur, l'adoration dont Moscou, qui avait décerné à l'empereur Alexandre le surnom d'ange terrestre, entourait son souverain bien-aimé. Pendant son court séjour dans sa famille, Rostov s'était plutôt éloigné que rapproché de Sonia, malgré sa beauté, ses attraits et l'amour qui éclatait dans toute sa personne. Il passait par cette phase de jeunesse où chaque minute est si emplie que le jeune homme n'a pas le temps de penser à aimer. Il craignait de s'engager. Il était jaloux de cette indépendance qui pouvait seule lui permettre de réaliser tous ses désirs. Et il se disait à la vue de Sonia, « J'en trouverai beaucoup comme elle, beaucoup qui me sont encore inconnus. Il sera toujours temps d'aimer et de m'en occuper plus tard. » Il dédaignait, dans sa virilité, de vivre au milieu des femmes et faisait mine d'aller à contre-cœur au bal et dans le monde. Mais les courses, le club anglais, les parties fines, Denisov et les visites là-bas, c'était autre chose. Et c'était vraiment là ce qui convenait à un jeune et élégant hussard. Au commencement de mars, le vieux comte Ilya Andreïevitch fut très occupé des préparatifs d'un dîner qu'on donnait au club anglais en l'honneur du prince Bagration. Le comte se promenait en robe de chambre dans la grande salle, donnant des ordres à Féoctiste, le célèbre maître d'hôtel du club, et lui recommandait de se pourvoir de primeurs, de poissons bien frais, de veaux bien blancs, d'asperges, de concombres, de fraises. Le comte était membre et directeur du club depuis sa fondation. Personne mieux que lui ne savait organiser sur une grande échelle un banquet solennel, d'autant mieux qu'il payait de sa poche le surplus des dépenses prévues. Le chef et le maître d'hôtel recevaient avec une satisfaction évidente les instructions du comte, sachant par expérience ce que leur rapporterait un dîner de plusieurs milliers de roubles.
« Rappelle-toi bien, n'oublie pas les crêtes dans le potage à la tortue. »«
Il faudra donc trois plats froids ?»
demanda le cuisinier.
« Il me paraît difficile qu'il y en ait moins, »
répondit le comte après un moment de silence.
« Il faudra donc acheter les grands sterlets ?»
demanda le maître d'hôtel.
« Certainement ! Que faire d'ailleurs, puisqu'on ne cède pas sur le prix ? Ah, mon Dieu, et moi qui allais oublier une seconde entrée, où est ma tête, mon Dieu? Où me procurerais-je des fleurs? Mitenka, Mitenka, va-t'en au grand galop à ma datcha,
s'écria le comte en s'adressant à son intendant.
Donne l'ordre à Maxime, le jardinier, d'employer à la corvée pour m'amener tout ce qu'il y a dans mes orangeries. Il faut que 200 oranges soient ici vendredi, qu'on les emballe bien et qu'on les recouvre de feutre.
Ces dispositions achevées, il se disposait à aller retrouver sa petite comtesse et à se reposer un peu chez elle. Lorsque, se souvenant de différentes recommandations qu'il avait oubliées, il fit appeler de nouveau le maître queue et le maître d'hôtel. Et recommença ses explications. La porte s'ouvrit, et le jeune comte entra d'un pas léger et assuré, en faisant sonner ses éperons. Le bon résultat d'une vie tranquille et heureuse se lisait sur son teint reposé.
« Ah, mon garçon, la tête me tourne !»
dit le vieux comte, un peu honteux de ses graves occupations.
« Allons, aide-moi. Il faudra avoir les chanteurs de régiment. Il y aura aussi un orchestre. » Et les bohémiens, qu'en penses-tu? Vous les aimez, vous autres militaires?
Vraiment, cher père, je parie que le prince Bagration, quand il se préparait à la bataille de Schöngraben, était moins affairé que vous aujourd'hui.
Essaye-en, je te le conseille,
dit le vieux comte, avec une feinte colère, et se retournant vers le maître d'hôtel, qui les examinait tour à tour avec une bonhomie intelligente.
Voilà la jeunesse, Féoctiste. Elle se moque de nous autres vieux.
C'est vrai, Excellence, elle ne demande qu'à bien boire et à bien manger. Quant aux apprêts et aux services, ça lui est bien égal.
C'est ça, c'est ça,
s'écria le comte, et, empoignant les deux mains de son fils,
je te tiens, polisson, et tu vas me faire le plaisir de prendre mon traîneau à deux chevaux et d'aller chez Bezoukov lui demander de ma part des fraises et des ananas. Il n'y en a que chez lui. S'il n'y est pas, va les demander aux princesses, puis tu iras au Rasgoulaï. Ipatka, le cocher, connaît le chemin. Tu y trouveras Ilyushka, le bohémien, celui qui dansait en casaquin blanc chez le comte Orlov, et tu l'amèneras ici.
« Avec les bohémiennes ?»
ajouta Nicolas en riant.
« Voyons, voyons !»
dit son père. Le vieux comte en était là de ses recommandations, lorsqu'Anna Mikhailovna, qui, selon son habitude, était entrée à pas de loup, parut subitement auprès d'eux, avec cet air affairé et mêlé de fausse humilité chrétienne qui lui était habituel. Le comte, surpris en robe de chambre, ce qui du reste lui arrivait tous les jours, se confondit en excuses.
« Ce n'est rien, cher comte, » dit-elle en fermant doucement les yeux. « Quant à votre commission, c'est moi qui la ferai. Le jeune Bezoukov vient d'arriver, et nous en obtiendrons tout ce dont vous avez besoin. Il faut que je le voie. Il m'a envoyé une lettre de Boris, qui, Dieu merci, est attaché à l'état-major. »
Le comte, enchanté de son obligeance, lui fit atteler sa petite voiture.
« Vous lui direz de venir, je l'inscrirai. Est-il avec sa femme ?»
Anna Mikhailovna leva les yeux au ciel, et son visage exprima une profonde douleur.
« Ah, mon ami, il est bien malheureux. Et si ce qu'on dit est vrai, c'est affreux. Mais qui pouvait le prévoir? C'est une âme si belle et si noble que ce jeune Bezoukov. Ah oui, je le plains de tout cœur. » Et je ferai tout ce qui me sera humainement possible pour le consoler.
« Mais qu'y a-t-il donc ?»
demandèrent à la fois le père et le fils.
« Vous connaissez, n'est-ce pas, Dologov, le fils de Marie Ivanovna ?»
dit Anna Mikhailovna en soupirant et en parlant à mi-voix et à mots couverts, comme si elle craignait de se compromettre.
« Eh bien, c'est lui qui l'a protégé, qui l'a invité à venir chez lui à Pétersbourg. Et maintenant, elle, elle est arrivée ici, avec cette tête à l'envers à sa suite, et le pauvre Pierre est, dit-on, abîmé de douleur. »
Malgré tout son désir de témoigner sa sympathie pour le jeune comte, les intonations et les demi-sourires d'Anna Mikhailovna en laissaient percer une plus vive encore, peut-être, que cette « tête à l'envers », comme elle appelait Dologov. «
Tout ça est bel et bon, mais il faut qu'il vienne au club. Cela le distraira. Ce sera un banquet monstre.
Le lendemain, 3 mars, à 2 heures de l'après-midi, 250 membres du club anglais et 50 invités attendaient pour dîner leur hôte illustre, le prince Bagration, le héros de la campagne d'Autriche. La nouvelle de la bataille d'Austerlitz avait frappé Moscou de stupeur. Jusqu'à ce moment, la victoire avait été si fidèle aux Russes que la nouvelle d'une défaite ne rencontra que des incrédules, et l'on essaya de l'attribuer à des causes extraordinaires. Lorsque, dans le courant du mois de décembre, le fait fut devenu incontestable, on avait l'air, au club anglais où se réunissait toute l'aristocratie de la ville et tous les hauts dignitaires les mieux informés, de s'être donné le mot pour ne faire aucune allusion ni à la guerre ni à la dernière bataille. Les personnages influents qui donnaient d'habitude le ton aux conversations, tels que le comte Rostopchine, le prince Youri Vladimirovitch, Dolgorukov, Valouyev, le comte Markov, le prince Vyazemski, ne se montraient pas au club, mais se voyaient en petit comité, et les moscovites, habitués d'ordinaire, comme le comte Rostov, à n'exprimer d'autre opinion que celle d'autrui, étaient restés quelque temps sans guide et sans données précises sur la marche de la guerre. Sentant instinctivement que les nouvelles étaient mauvaises et qu'il était difficile de s'en rendre exactement compte, ils gardaient un silence prudent. Les gros bonnets, semblables au jury qui sort de la salle des délibérations, rentrèrent au club et donnèrent leur avis. Tout redevint pour eux d'une clarté inéluctable. Et ils découvrirent à l'instant mille et une raisons pour expliquer à leur façon cette catastrophe incroyable, inadmissible. La déroute des Russes. À partir de ce moment, on ne fit plus, dans tous les coins de Moscou, que broder sur le même thème, qui était invariablement la mauvaise fourniture des vivres, la trahison des Autrichiens, du Polonais Przegzebiszewski, du Français Langeron, l'incapacité de Kutuzov, et, bien bas, la jeunesse, l'inexpérience et la confiance mal placée de l'empereur. En revanche, on était unanime pour dire que nos troupes avaient accompli des prodiges de valeur. Soldats, officiers, généraux, tous avaient été héroïques. Mais le héros des héros était le prince Bagration, qui s'était couvert de gloire à Schöngraben et à Austerlitz, où seul il avait su conserver sa colonne en bon ordre, tout en se repliant avec elle et en défendant pas à pas sa retraite contre un ennemi deux fois plus nombreux. Son manque de parenté à Moscou, où il était étranger, y avait singulièrement facilité sa promotion au titre de héros. On saluait en lui le simple soldat de fortune, le soldat sans protection, sans intrigue, qui ne songe qu'à se battre pour son pays, et dont le nom se rattachait du reste au souvenir de la campagne d'Italie et de Souvarov. La malveillance et la désapprobation que Kutuzov avait accumulée sur sa tête s'accentuaient plus vivement encore par le contraste des honneurs rendus à Bagration, qu'il aurait fallu inventer s'il n'avait pas existé, comme avait dit un jour ce mauvais plaisant de Chichine en parodiant les paroles de Voltaire. On ne parlait de Kutuzov que pour le blâmer et l'accuser d'être une girouette de cour et un vieux satyre. Tout Moscou répétait les paroles du prince Dolgorukov, « À force de forger, on devient forgeron », en se consolant de la défaite actuelle pour le souvenir des gloires passées, et les aphorismes de Rostopchine, qui disait à qui voulait l'entendre que « le soldat français avait besoin d'être excité à la bataille par des phrases ronflantes », qu'il fallait à l'allemand une logique serrée pour le convaincre qu'il était plus dangereux de fuir que de marcher à l'ennemi, et que, quant aux Russes, on était obligé de le retenir et de le supplier de se modérer. Chaque jour, on citait de nouveaux traits de courage accomplis à Austerlitz par nos soldats et par nos officiers. Celui-ci avait sauvé un drapeau. Celui-là avait tué 5 Français. Cet autre avait pris 5 canons. Berg n'était pas oublié, et,
Ceux-mêmes qui ne le connaissaient pas racontaient que, blessé à la main droite, il avait pris son épée de la main gauche et avait bravement continué sa marche en avant. Quant à Bolkonski, personne n'en disait mot. Ses plus proches parents regrettaient seuls sa mort prématurée et plaignaient sa jeune femme enceinte et son original de père.